Vous écoutez France Culture.
Talmudique. Une émission de Marc Anna Waknin. Jean Lieselbaum et Antoine Spire, c'est un très grand plaisir de vous retrouver. Nous nous sommes déjà entretenus la semaine dernière pour évoquer la question de la transmission, thème qui est au cœur, ou un des thèmes essentiels au cœur de ce formidable dictionnaire du judaïsme français de 1944 à nos jours que vous avez co-dirigé. Je rappelle, Jean Lieselbaum, que vous êtes universitaire, que vous avez été professeur de lettres classiques, latin grec, journaliste et directeur de communication d'un grand groupe, que vous avez aussi été directeur pendant 10 ans de la revue Tenois du MGLF. Et vous, Antoine Spire, vous êtes journaliste de presse, de radio et de télévision, professeur associé à l'Université de Compiègne. Vous avez été directeur du département recherche en sciences humaines de l'Institut national du cancer. Vous êtes aujourd'hui vice-président de la LICRA. Vous êtes auteur de nombreux essais et vous êtes aussi aujourd'hui éditeur aux éditions Le Bordelot. Nous avons évoqué la semaine dernière la question, le fil rouge de la transmission. Et qui dit transmission dit aussi outil de transmission. Et je pense à cet outil privilégié que sont l'étude, les livres et tous les lieux d'enseignement. De très nombreux articles de ce dictionnaire y sont consacrés. Jean Lieselbaum, vous ouvrez d'ailleurs le dictionnaire avec un article consacré à l'AIU, l'Alliance israélite universelle, dont l'influence se fait sentir avec force jusqu'à nos jours par de très nombreux aspects, non seulement en France, mais dans le monde entier, et qui eut un rôle éminemment important dans la francophonie. Jean Lieselbaum.
Oui, en effet, l'AIU a eu un rôle absolument éminent, mais j'oserais dire qu'il est historique, ce rôle. Je veux dire, tant que Cassin en a été le dirigeant, le directeur.
Je vous arrête immédiatement pour bien préciser. L'AIU, c'est l'Alliance israélite universelle.
Universelle, qui avait été fondée au XIXe siècle par un certain nombre de hauts dirigeants et de penseurs juifs pour promouvoir la culture française, d'ailleurs, et la culture juive dans les pays des bords de la Méditerranée. Donc, mais au lendemain de la libération, ce qui est notre période, bien entendu, Cassin est encore, pour de nombreuses années, il est vice-président du Conseil d'État, et donc c'est une figure incontournable, si vous voulez. Il dirige cela de main de maître. À un moment donné, même, on dit qu'il est le ministre des Affaires étrangères, c'est finalement de la communauté juive à l'étranger. Donc ça a été un moment extrêmement important. Il a joué un très grand rôle, notamment lors de la constitution du CRIF. Donc la constitution, ou plutôt la constitution et l'élargissement du CRIF.
Parce que le CRIF est né pendant la résistance.
Exactement, c'est ce que je voulais dire. Mais si vous voulez, il a eu une histoire lui aussi, le CRIF, et il est abondant. Cette histoire est d'ailleurs répertoriée et documentée dans ce dictionnaire. Revenons à l'AIU. L'AIU a une énorme importance. Ça a été un foyer intellectuel extrêmement important. Mais voyons les choses comme elles sont. Au fur et à mesure la présence française en Méditerranée s'est rétrécie, et elle se rétrécit considérablement, bien entendu. Jusque, et y compris dans les trois pays du Maghreb, dont l'un au moins était l'Algérie, et constitué de départements français, au fur et à mesure que ça se restreignait, il est évident qu'un certain nombre de cartes maîtresses, je dirais, de l'AIU se trouvaient dépassées.
Parce qu'il faut dire que l'Alliance israélite universelle a ouvert des écoles françaises, voilà, francophones, dans le monde entier. Absolument. Et que cela a été un des moments clés forts aussi du développement de la francophonie.
Où en est-on avec l'Alliance ? Il ne s'agit pas de porter jugement sur que ce soit, mais de constater simplement. L'Alliance est tout de même actuellement en recherche, en recherche sur de nouveaux domaines. Mmh. Elle a été en particulier les années 80, si vous voulez, un foyer de réflexion extrêmement important avec les cahiers, avec les revues qu'elle a pu éditer au fur et à mesure et qui ont au fur et à mesure.
Et le collège des études juives.
Et voilà, le collège des études juives
de Trigano.
De Trigano qui avait été introduit par le président Steg. Mmh. Donc on voit bien que c'est un foyer, une bibliothèque, oui. Une bibliothèque remarquable.
Voilà,
remarquable.
Alors, vous voulez dire qu'elle attend ça, un nouveau souffle.
Elle attend un nouveau souffle. Actuellement, non pas elle se cherche, mais elle effectue un travail très très important au niveau des écoles juives,
oui.
Dont on sait que l'élargissement, la multiplication est absolument étonnante.
Alors justement, à propos d'écoles, dans ce dictionnaire, j'ai relevé des articles sur l'interprétation,
oui.
Sur l'étude,
oui.
Sur les études juives. Mmh. Suivi d'un article intitulé « Études sur le judaïsme
oui. ».
Il y a un article sur les écoles juives, sur l'éducation, sur les intellectuels, sur le musée d'art et d'histoire du judaïsme, sur le mémorial de la Shoah, sur les différents instituts d'enseignement, le centre Rashi, l'institut Wiesel, l'institut Rashi, le centre Medem, sur le collège des études juives, sur les yeshivot, sur les différents centres Edmond Flegg et les centres communautaires à travers la France. Quelle que soit leur tendance, des plus libérales aux plus orthodoxes, des plus religieux aux plus laïques, tous ces lieux proposent des Talmud Torah, des cours, des séminaires, des formations, des ateliers où se mêlent à la fois culture savante et culture populaire, où l'on apprend non seulement l'hébreu moderne, la Bible, le Talmud, l'histoire juive, la littérature, la philosophie juive, le chassidisme, la kabbale, mais aussi le yiddish, le ladino, le judéo-arabe, la musique, le théâtre, le cinéma, l'histoire de l'art et des synagogues, sans oublier la psychanalyse, à laquelle le dictionnaire consacre de très nombreux articles. Je pourrais continuer cette longue liste, mais ma question est simple, Antoine Spire, de quoi toute cette effervescence témoigne-t-elle ?
Ben, elle témoigne de la richesse et de la diversité des Juifs français. Et je dois vous dire que nous avons fait ce dictionnaire et vous avez cité les articles, la diversité des articles qui rend compte de cette diversité intellectuelle et de cette diversité de présence de lieux extrêmement différents. Mais pour parler de ce dictionnaire, depuis quelques mois, avec Jean Lézelbaum, nous avons fait le tour de ces communautés. Figurez-vous que nous avons été dans toutes les grandes villes de France où il y a des communautés juives. Et elles sont très nombreuses. On a été reçus à la fois dans des librairies commerciales qui n'ont rien de juif, et où, en conséquence, on a vu l'impact du judaïsme sur la société française, puisque des gens de la société française sont venus dialoguer avec nous. Et puis ensuite, on a été reçus dans les communautés. Et je dois vous dire que moi, qui n'avais jamais été dans toutes ces communautés juives, c'était la première fois pour chacune, j'ai été extrêmement sidéré par la diversité de ces communautés. C'est-à-dire, dans chacune, l'axe est extrêmement divers en fonction de plusieurs choses. D'abord, en fonction du poids des religieux, plus ou moins important. Deuxièmement, en fonction du lien qu'ils ont avec Israël, plus ou moins fort, et quelquefois pas fort du tout. Mais bien sûr, Israël, ça existe. Et troisième axe sur lequel on voit des différences extraordinaires, c'est le rapport à la culture. C'est-à-dire, à la fois, il y a toujours ce souci de formation, d'éducation dont vous avez parlé, mais en même temps, il y a des références culturelles, quelquefois très élaborées, très fines, à la fois des études juives traditionnelles, des études du Talmud, des études de la Torah, etc., mais des études de la Mishnah, mais en même temps, des études sur la littérature juive telle qu'elle s'écrit au présent. Et j'ai été très, très étonné, je dirais, de cette multiplicité, de cette diversité d'initiatives. Et je suis très heureux que notre dictionnaire, au fond, après coup, rende compte de cette diversité. Parce que les lieux que nous avons visités, c'est bien ça. Alors, cela dit, il y a une évolution globale qu'on peut essayer de voir. Évolution globale qui est une crainte croissante des Juifs de France par rapport à l'antisémitisme. Il y a un renouveau de l'antisémitisme, c'est incontestable. Mmh. Et en conséquence, il y a une crainte, il y a une peur qui existe. Et donc, un danger énorme de repli sur soi. Mmh. Toutes ces communautés qui adorent la confrontation, le pile-poule avec des gens qui sont différents d'eux-mêmes, en fait, sont amenées parfois à se replier sur elles-mêmes. Et puis, il y a autre chose, c'est, je dirais, une évolution vers ce qu'elles croient être leur identité principale, c'est-à-dire le religieux et le rapport à Israël. Or, je me rends compte qu'elles sont plus riches et plus diverses, dans ce, pas du tout pour négliger le religieux et le rapport à Israël, hein, mais elles sont plus riches et plus diverses dans ce qui n'est pas religieux et dans ce qui n'est pas le rapport à Israël, elles ont beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de richesse qu'elles ne croient. Mmh. Et c'est dommage qu'elles risquent de se replier sur ce lien à Israël et ce lien religieux.
Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça montre une évolution importante au sein de la communauté.
Et nous ne disons pas la communauté. Parce que je pense que les Juifs de France, c'est pas une communauté. C'est des communautés.
Oui.
C'est des communautés. Non, oui. C'est important. Il n'y a pas la communauté juive. Pour moi, il y a le peuple juif de France. Le peuple juif de France.
Alors
c'est pas la même chose.
Je vous remercie de le signaler parce que justement, dans votre dictionnaire, on a la chance de pouvoir apprendre que le mot « la communauté juive » est une appellation, je dirais, éminemment récente. Et là, vous êtes en train de dire qu'on passe à un nouveau moment des Juifs de France, de la communauté aux différentes communautés. Jean Lieselbaum.
Oui, en effet, pour... si vous voulez, nous sommes gênés d'employer le mot « communauté » parce qu'en vérité, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale.
Mmh.
La France ne supporte pas d'autres communautés que celle-ci. En dehors de cela, il y a en effet des personnes qui, appartenant ou n'appartenant pas à une religion, ont tendance à se rassembler, et c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait accepté. Ça correspond pour nous, le mot communauté correspondrait plutôt au mot congrégation en américain, c'est-à-dire tous les gens qui se réunissent autour d'une synagogue.
Mmh.
Ou d'un lieu juif, en tous les cas. Voilà ce qu'il en est pour ce qui est de la communauté. C'est un mot récent, c'est un mot difficile à employer, c'est un mot d'ailleurs qui renvoie à l'idée de minorité, d'ailleurs. Mmh. Ça renvoie aussi, et ça risque de nous mettre en face à face, je dis simplement en face à face, avec nos amis musulmans. C'est extrêmement dangereux. Mmh. C'est extrêmement dangereux, par exemple, qu'un président de la République, au moment de certains désordres qui sont produits à la suite du conflit israélo-palestinien, en vienne à dire que la communauté juive a été tout à fait remarquable par son aplomb et par son absence de réaction, si vous voulez, du côté de Belleville.
Mmh.
Tout cela ne me paraît pas...
Il faut réviser le vocabulaire et appeler ça le peuple juif de France.
Ah, oui.
Le peuple juif de France, pourquoi ? Parce que ces communautés ne sont pas qu'organisées autour des synagogues.
Mmh.
Jean a parlé des communautés organisées autour des synagogues, mais vous savez comme moi qu'il y a des communautés qui se baptisent laïques.
Oui.
Moi, je vais vous dire, je pense que se baptiser laïque quand on est juif, ça n'a aucun sens.
Mmh.
Parce que, justement, la colonne vertébrale de la transmission de notre patrimoine, ça a été la religion juive. Donc on ne peut pas être laïque. Enfin bon, peu importe.
Ça a été les textes juifs.
Oui,
ils veulent dire
qu'ils ne sont pas directement religieux.
Ah. Mmh.
Et de ce point de vue, c'est très important. C'est-à-dire que la présence de ces non-religieux, la présence de ces juifs sans Dieu, puisque dans notre dictionnaire, il y a cette idée de juifs sans Dieu, la présence de ces juifs sans Dieu organisés eux aussi en communauté, bon, forme le peuple juif de France. Mais si vous voulez vouloir unifier les choses sous la forme d'une la communauté juive de France, à mon avis, c'est ne pas rendre service aux Français de l'extérieur qui auront une vision complètement fausse de ce que sont les Juifs dans leur diversité, leur pluralité. Et ce n'est pas rendre service aux Juifs parce que ce n'est pas accepter qu'ils puissent, dans le judaïsme, avoir des points de vue mais tellement différents sur tellement de choses qu'au fond, aussi bien en politique que sur leur référence aux religieux ou leur référence à l'histoire juive ou leur référence à la manière dont l'histoire juive a été prise en compte traditionnellement depuis des siècles, eh bien, leur manière de faire est totalement différente des uns des autres. Totalement différente. Moi, j'en témoigne, franchement.
Oui, oui, mais j'imagine, et en vous écoutant, là encore, j'ai une histoire juive qui me vient à l'esprit. Ça se passe à New York, et c'est dans une famille, comme on dit, très cultivée, on dit à ce moment-là, dans l'histoire, c'est marqué, on dit de gauche, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Et c'est un père qui met son fils dans une école à Trinity College. Alors, le fils revient et il dit, bon, l'école est formidable, mais je voudrais savoir ce que c'est Trinity College. Alors, le père lui explique, Trinity College, c'est le père, le fils et le Saint-Esprit. Et il prend son fils par l'épaule et il lui dit, Danny, rentre-toi bien ça dans la tête. Nous n'avons qu'un seul Dieu et nous n'y croyons pas. Voilà, ça c'est un petit
vous
peu...
Voyez, voilà encore une question, je suis content que vous ayez raconté cette histoire, parce que voilà encore une question qui est au cœur de notre dictionnaire, c'est la question de la croyance. Alors, si vous voulez, la croyance, je crois qu'elle est quand même largement présente dans
absolument.
Le dictionnaire. Parce que, qu'est-ce que c'est que la croyance ? Moi je crois que les chrétiens croient en Dieu, mais les juifs, me semble-t-il, dans leur diversité, ils ne savent pas s'ils croient ou s'ils ne croient pas. Et au fond, il y a toujours le problème de la question, de l'interrogation dans notre patrimoine culturel. Et je crois que dire que les juifs croient, c'est nous modeler sur les chrétiens. Mmh. Mais non, les chrétiens sont venus après nous, ils croient, tant mieux pour eux. Nous, nous ne savons pas. Mmh. Nous ne savons pas ce qu'il en est. Et nous ne savons pas ce qu'il en est de la croyance. Dire je crois, c'est pas une référence juive. Mmh. Dire je ne crois pas non plus, d'ailleurs.
Oui.
Ce n'est pas une référence juive. C'est-à-dire que les juifs, ils sont hésitants.
Ils sont inquiets.
Ils sont inquiets.
Voilà.
Angoissés par rapport à cette question même.
Mais quand même, il en existe un certain nombre pour qui l'idée et la nécessité d'une transcendance est fondamentale et existentielle.
Ça n'exclut pas la question de la transcendance. D'ailleurs, oui. dans tout le livre,
elle est présente.
Il y a un souffle, on sent, je tiens à le dire, ça se lit comme un roman, on sent un souffle. Je dis que quand on sort de ce dictionnaire, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'on sort non seulement plus savant, mieux informé, mais plus intelligent. Parce que ça ne donne pas simplement des informations, mais ça ouvre à un questionnement. Ça donne cette inquiétude, justement, à la fois de la transmission, de la volonté de transmettre. Et rien du tout.
Mais je me permettrai d'ajouter qu'il y a tout de même 170 auteurs derrière ce dictionnaire.
Oui.
Et on leur doit beaucoup.
Oui.
Et on n'a pas hésité à demander des articles qui se complètent. Je ne dis pas qu'ils s'opposent, mais qui se complètent. Et la plupart du temps, même tout le temps d'ailleurs, pour chacun des articles, les auteurs ont écrit non pas des articles objectifs, j'aime pas le mot objectif, ça ne veut rien dire, mais des articles d'une très grande honnêteté.
Très grande honnêteté, très grande rigueur, et malgré tout, ou avec cela, on sent le côté engagé, et ce souffle de l'engagement, on le ressent parce qu'on a envie de poursuivre, de lire, de travailler, et là, ça m'amènera à d'autres questions sur les vecteurs de la transmission après cette page musicale que je vous propose.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétendu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Des amis que vent importe et qu'ils vantaient devant ma porte les importants. Avec le temps qu'arbre de feuilles, quand il ne reste le branche-feuille que n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atteint, qui de partout me fait la guerre, l'amour est mort.
Alors Antoine Spire, c'est votre choix musical aujourd'hui.
Ça paraîtra peut-être étrange que pour moi c'est le judaïsme ça.
Oui,
c'est le judaïsme
justement.
Parce que ça puise dans les traditions françaises les plus profondes. Et en même temps, ça pose le problème de l'autre, de la figure de l'autre.
Mmh.
Et je crois que le judaïsme, c'est toujours la confrontation avec l'autre. Mmh. C'est-à-dire, nous sommes à nous-mêmes notre propre autre, mais il y a aussi à respecter l'autre dans sa diversité. Et là, pour moi, cette chanson, elle incarne, si vous voulez, cette réflexion sur l'altérité qui est inséparable de mon judaïsme.
Mmh.
Je dis de mon judaïsme parce qu'il y a des judaïsmes.
Mmh. Alors, c'est formidable ce que vous venez de dire parce que dans cette émission, ou dans ces deux émissions sur la transmission, des émissions où on a beaucoup cité Lévinas, un des philosophes qui a beaucoup amené cette réflexion sur la figure de l'autre, mais il n'est pas le seul. Il y a eu Buber avant lui, mais disons qu'il a souligné cette éthique de l'altérité, et j'ai trouvé dans un très beau livre de Catherine Chalier, à qui d'ailleurs vous consacrez de très nombreuses pages dans votre dictionnaire, un livre intitulé justement « Transmettre de génération en génération », elle cite Etil Soum, qui, dans son journal du 20 juillet 1942, dit la chose suivante.
Quand de Westerbork.
Elle l'écrit alors qu'elle est encore à Amsterdam. Elle dit « Mon Dieu, cette époque est trop dure pour des êtres fragiles comme moi. Après elle, viendra une époque beaucoup plus humaine. J'aimerais tant survivre pour transmettre à cette nouvelle époque toute l'humanité que j'ai préservée en moi, malgré les faits dont je suis témoin chaque jour. C'est aussi notre seul moyen de préparer les temps nouveaux, les préparer déjà en nous. J'aimerais tant vivre, contribuer à préparer les temps nouveaux, leur transmettre cette part indestructible de moi-même. » Et elle poursuit le lendemain, le 21 juillet, « Je me sens dépositaire d'un précieux fragment de vie, avec toutes les responsabilités que cela implique. Je me sens responsable du sentiment grand et beau que la vie m'inspire et j'ai le devoir de le transporter intact à travers cette époque pour atteindre des jours meilleurs. Aujourd'hui, j'ai trouvé le moyen de lire tout de même un peu de Rilke et sa voix m'a parlé. » Et j'ai trouvé, fin de la citation, et j'ai trouvé ce texte d'une force inouïe. Imaginez, nous venons d'entendre le souffle de la poésie de Rilke dans les paroles d'Etil Soum que nous transmet Catherine Chalier et que je vous fais entendre ainsi qu'aux auditeurs qui les transmettront à leurs enfants ou à leurs parents ou leurs amis. N'est-ce pas là un geste de liberté extraordinaire où par la transmission on est déjà toujours au-delà de soi-même, en excès sur soi-même, dans un mouvement de désir et de transcendance, loin de nos petitesses, entièrement pour l'autre. Parce qu'on touche... Lévinas dit, juste, je voudrais terminer, il appelle ça « liturgie de ce don », dit Lévinas, « pour ceux que nos yeux ne verront pas ». Ce moment où je suis totalement pour l'autre, même pour ceux que mes yeux ne verront pas, c'est-à-dire la génération, les générations qui viendront après, ce souci pour l'autre de manière absolue, et dans la transmission, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, dans votre livre, et je me suis dit, ce geste de transmettre n'est-il pas une façon de caresser l'éternité ? Et je sais que l'expression est un peu grandiloquente, mais je pense vraiment, et n'est-ce pas ce que vous avez tenté de faire, bien sûr en d'autres termes, dans une autre tonalité l'un et l'autre, dans la réalisation de ce dictionnaire, Jean Lézelbaum et Antoine Spire, et je précise que ce n'est pas une question piège.
Non mais c'est essentiel parce que vous touchez un fil rouge de ce dictionnaire, qui est lié d'ailleurs à ce que vous avez fait vous-même, quand vous avez prononcé le mot « caresse », il y a dans ce que vous avez écrit, Marc-Alain Wachnin, des choses sur la caresse qui sont absolument fondamentales et qui montrent que la vie est liée, au fond, au respect, à la prise en compte de l'autre dans sa totalité. Et il y a chez Vassili Grossman, désolé de rajouter une citation, à un moment, Vassili Grossman, dans Vie et Destin, raconte comment la mère du narrateur, prise dans le ghetto de Berdichev qui va mourir, elle est entourée donc des nazis, et elle envoie une dernière lettre à son fils. Et c'est, je sais par cœur la fin de cette dernière lettre, vous la savez peut-être aussi, Vassili, voici les dernières lignes de la dernière lettre de ta maman. Vie, vie, vie. Voilà, ça c'est un enseignement tellement fondamental du judaïsme qu'il est présent dans le dictionnaire tout le temps, exaltation de la vie. Et à travers toutes les références que vous nous avez données, aussi bien d'Etil Soum que de Catherine Chalier, ou d'autres encore, il y a toujours ce moment où on glorifie la vie, parce que la vie c'est la possibilité, les potentialités immenses, infinies qui nous sont ouvertes, les possibilités qui nous sont données, au fond, de rendre compte, de nous battre pour que nous puissions transformer le monde, le comprendre, pour mieux le transformer. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel dans cet impératif de vie, 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 qui est au cœur du projet que nous avions avec Jean Lézelbaum.
Et on le sent très bien.
Oui. D'ailleurs, on rejoint là l'un des mots-clés, si vous voulez, du judaïsme. C'est le mot que nous employons, « chaïm », c'est-à-dire à la vie, qui est un pluriel d'ailleurs, qui n'est même pas un singulier, qui est un pluriel. C'est donc aux vies, à toutes les formes de la vie. Mais je dois dire aussi que ce texte me conduit à dire tout de même que la théologie, d'après la Shoah, a fait l'objet d'un article extrêmement intéressant de quelqu'un que j'aime beaucoup, David Meyer, qui est un rabbin à Bruxelles, et qui montre comment les réactions, on ne peut plus penser le judaïsme après la Shoah comme on l'a pensé. Ce qui ne veut pas dire une seconde que ce soit un judaïsme victimaire, pas du tout. C'est un judaïsme de la joie, mais une joie qui est accompagnée du souvenir et du deuil.
Oui, mais comme le dit Yerushalmi dans un de ses livres, il faut à la fois se souvenir et à la fois pas trop se souvenir, parce qu'il ne faut pas que le souvenir soit l'oblitération de
qu'il faut savoir oublier.
Voilà,
qu'il faut savoir oublier.
Il faut savoir oublier. Alors dans ce dictionnaire où on sent tout ce souffle de vie, j'avais encore d'autres questions. Il y a des chapitres sur le patrimoine, c'est-à-dire on parle beaucoup de livres. Et c'est très important de souligner l'apport que les éditions, depuis 70 ans, ont eu dans la transmission, que ça soit, je ne vais pas toutes les nommer, mais il y a eu vraiment des éditions particulièrement, je dirais, militantes. Je pense aux éditions Verdier qui, à la fin des années 80, ont permis, par la traduction sous l'impulsion de feu Charles Mopsik, qui était directeur de cette collection d'Eddie Parole, de nous permettre d'avoir un rapport réel au texte de la tradition. Et là, on est encore dans la matière, comme dans la pierre, quand on se promène dans les communautés. Mais aujourd'hui, on s'achemine un petit peu vers le virtuel. Et il y a d'autres nouveaux moyens de transmission, de communication. Et je pense à un article qui arrive dès le début du dictionnaire, qui est consacré à cette université numérique qu'est Académ.
Bien, écoutez, Académ a beaucoup compté pour nous et compte beaucoup, non seulement parce qu'il présente aujourd'hui ce qu'est le judaïsme au présent, c'est-à-dire à travers toutes les initiatives qui sont prises par des communautés très diverses et qui mettent en valeur tel ou tel livre, telle ou telle discussion, telle ou telle étude. Et le grand mérite d'Académ, à mes yeux, c'est que tout un chacun qui, sur Internet, est abonné à Académ, c'est mon cas, au fond, est au courant de tout ce qui se passe dans le monde juif français. Et savoir ce qui se passe dans le monde juif français, c'est pour ça que nous en avons rendu compte, c'est formidable. C'est-à-dire que vous avez, grâce au numérique, l'accès à toutes les initiatives qui sont prises, à chaque moment. D'ailleurs, avec Académ, nous avons le projet, d'ici quelques mois, de faire une édition numérique du dictionnaire du judaïsme français. Et peut-être que régulièrement, il y aura sur Académ un article du dictionnaire que nous avons dirigé avec Jean Lesolbaum et qui pourra être mis à la disposition de tous les lecteurs d'Académ, comme ça, sur le numérique. C'est une manière, si vous voulez, nouvelle, au fond, de prendre conscience de ce qu'est la connaissance. Et comme notre dictionnaire est un dictionnaire, c'est-à-dire que c'est un dictionnaire encyclopédique, disons, puisqu'il y a 2-3 pages par notion, mais ces 2-3 pages par notion, on pourra les piquer régulièrement sur Académ. Et je crois que c'est un avenir, à mon avis, riant, pour tous ceux qui sont intéressés par le judaïsme.
Je voudrais ajouter quelque chose sur Académ.
Oui, Jean Lesolbaum.
Ce que l'on voit dans Académ, ce que l'on entend plutôt, et ce que l'on voit dans Académ, c'est un certain nombre d'intervenants qui nous changent un petit peu de ce que l'on entend. Une espèce de doxa, au meilleur sens du terme, bien entendu. Il y a des interventions qui montrent que Académ est aux écoutes d'autres judaïsmes que le judaïsme français. Parce que c'est une marque extrêmement importante, je crois. Il faut le souligner.
D'autres judaïsmes que le judaïsme institutionnel aussi.
Et aussi, mais je parlerai là des autres judaïsmes, des autres continents. Finalement, le judaïsme français est isolationniste. Il est coupé, finalement, des autres sources de judaïsme, qu'on le veuille ou non. Et en particulier des deux plus importants, c'est-à-dire de l'israélien et de l'américain, et de l'Amérique du Nord, si vous voulez. C'est la raison pour laquelle on a consacré un article, je crois, on l'a intitulé « Les nouveaux judaïsmes » ou « Les nouveaux courants du judaïsme ». Et ça me paraît extrêmement important, parce que ce qui se discute, ce qui se parle, ce qui s'écrit aux États-Unis est extrêmement important pour nous, et je crois qu'on ne fait pas assez la part. On a tenté de le faire, on le fera encore davantage, bien entendu, lorsqu'on avancera dans cette encyclopédie, et la même remarque, bien sûr, pour le judaïsme israélien, duquel, d'ailleurs, se rapproche beaucoup le judaïsme français dans une de ses espèces, je dirais. dans l'espèce religieuse, si vous voulez. Il me semble que les religieux français sont finalement, de tous les autres par le monde, les plus proches des religieux israéliens.
Sur le plan culturel, si vous voulez, le fait que nous ayons des articles sur Roth, sur Malamud, qui sont au fond l'école juive de New York, ça donne une idée du lien qu'il y a en France avec l'école juive de New York, ouais. ou avec les écrivains israéliens. Mais Edgar Keret va être à Paris début mai, et ce qui est extraordinaire avec Edgar Keret, c'est que c'est un écrivain israélien qui est présent dans la formation de beaucoup de juifs français. Si je prends Aaron Appelfeld, il vit en Israël, mais si vous voulez, la littérature d'Appelfeld, c'est une manière pour beaucoup de juifs français d'entrer dans la tradition. Il y a beaucoup de gens qui croient que rentrer dans la tradition, c'est aller à la synagogue et lire un texte religieux. Mmh. Non, ça existe, c'est très important. Mais lire Appelfeld, c'est complémentaire. Et ça vous donne autre chose. Ça vous donne la possibilité de puiser dans une histoire très très riche, extraordinaire, où on le sait, Appelfeld au fond a été seul livré dans une forêt extraordinaire après avoir été poursuivi par les nazis. Et cette histoire qui aboutit en Israël et cette manière de visionner l'histoire de cette façon, eh bien, elle est unique et elle pénètre le judaïsme français.
Alors, ce qui est extraordinaire dans ce que vous dites, c'est que un dictionnaire sur le judaïsme français est un dictionnaire sur le judaïsme français parce qu'il est ouvert à autre chose que le judaïsme français. Alors, je vous remercie vraiment, Jean Lézelbaum et Antoine Spir, pour ce dictionnaire. Cela me fait plaisir de le redire, vraiment. J'ai trouvé cet ouvrage absolument réjouissant, d'une richesse incroyable, qui se lit comme un roman, où chaque page recèle des découvertes sur l'histoire, la politique, la philosophie, la littérature, la théologie, les relations judéo-chrétiennes, les institutions juives de France, la sociologie, où le lecteur découvre aussi les personnalités à la fois dont on parle, mais aussi des contributeurs, et avec une bibliographie extrêmement riche. Vraiment, comme on dit en hébreu, chazak, bravo. Merci encore Jean Lézelbaum et Antoine Spir pour ces 2 semaines consécutives de ce dialogue passionnant, et bon vent pour ce dictionnaire.
Bonne lecture.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. À la technique aujourd'hui, Philippe Palares. À la réalisation, Dany Journeau. Leïtraot, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.